Bon, alors j'avais dit qu'effectivement je pourrais parler de Freud et du journal psychanalytique d'une petite fille, puisque c'était ainsi qu'il est appelé dans l'édition de la bibliothèque. C'est vrai que je dois d'abord remercier tous ceux qui m'ont présenté ce livre, parce que je ne me connaissais pas avant d'être dans la bibliothèque. C'est Amanda, José et Guillaume qui m'ont présenté ce livre. Et j'avoue que je les en remercie beaucoup parce que ça a été l'occasion pour moi d'un travail dans lequel je ne pensais pas me plonger. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont beaucoup aidé ce soir. D'abord Barbro Silvan, qui n'est pas là parce qu'elle est en clinique, mais qui est une collègue analyste et qui m'a tout à fait incité à aller voir de plus près dans toute cette histoire. Je voudrais aussi bien entendu remercier Dominique Souvrony, Elisabeth Quenehaime et Georges-Guillaume Kérouredan qui ont accepté de bien vouloir participer à ce travail sous forme de lecture, et en ce qui concerne Dominique Souvrony, sous une forme tout à fait solide, puisqu'il s'agit de traduction dont j'aurais été incapable de faire pour la totalité, disons. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce dont je vais vous parler ce soir, c'est plus un peu l'état de mon travail en cours. Je n'ai encore rien vraiment écrit sur papier. Je fais part plutôt de mes recherches à l'heure actuelle. Bien entendu, je parle essentiellement pour les membres de cette bibliothèque dont je fais partie. J'espère que je ne vais pas trop les ennuyer. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est en préambule une petite histoire de la recherche que j'ai menée grâce à trois axes. Un livre qui est fondamental, qui s'appelle en français la saga freudienne, qui est de Paul Rosen. Bon, accessoirement l'autobiographie d'Hélène Deutsch, et l'autre axe étant la recherche dans la presse viennoise. Et c'est grâce à Dominique Souvrony d'ailleurs que nous avons pu l'effectuer, parce que ça a été fait dans cette bibliothèque qui était assez peu connue, qui est la BDIC, la bibliothèque. Alors D, c'est quoi? Documentation internationale, et C, c'est quoi?
Contemporaine.
Contemporaine, qui est une admirable bibliothèque et qui a été citée ces derniers jours dans Le Monde comme une bibliothèque très ancienne, puisqu'elle a commencé à archiver à partir de 1917 sur toute l'histoire politique et sociale. Ils ont notamment un fonds sur la presse de l'Est qui est assez extraordinaire. Bon, alors voilà comment j'ai pensé qu'on pouvait faire cette soirée lecture ce soir. D'abord, j'ai pensé vous parler de l'histoire de l'éditrice, qui n'est pas connue dans l'édition de la bibliothèque. Elle s'appelle Hermine von Hughelmuth. Ensuite, je vous parlerai donc du journal proprement dit et de l'histoire qu'il y a autour du journal. Alors, dans l'histoire de l'éditrice du journal, je vais d'abord vous parler un peu brièvement ce qu'on peut appeler petit tableau de la société psychanalytique viennoise autour de 1900-1915. Et ensuite, nous aborderons plus précisément l'histoire de cette analyste, puisque c'est une histoire tragique, dans la mesure où maintenant c'est chose connue grâce à la dernière édition de janvier 88 qui est sortie chez De Noël. Cette analyste a donc été assassinée par son neveu, et je vous parlerai de ce que j'ai un peu découvert au niveau du crime et de son procès. Alors donc, essayons de brosser un petit tableau de la société psychanalytique viennoise de l'époque. Sans doute plusieurs personnes d'entre vous ont vu cette exposition de Vienne à Beaubourg. Sans doute plusieurs d'entre vous ont le magnifique catalogue qui a été édité à ce moment-là. Vienne, 1880-1938, l'apocalypse joyeuse. Il y a deux articles notamment dans ce catalogue qui sont très intéressants pour notre sujet. C'est un, celui de Bruno Bettelheim, qui s'appelle « La Vienne de Freud ». Et l'autre, c'est un Autrichien qui s'appelle Harald Leupold Löwenthal, qui parle plus précisément de la société psychanalytique viennoise. Ce qu'on peut dire du petit article du Bruno Bettelheim, que je vous invite à lire, qui est tout à fait intéressant, il brosse ce qu'était à ce moment-là le ton de Vienne à la fin de l'Empire et donc à la décadence qui se sentait jusqu'à la fin de l'Empire austro-hongrois. Il cite cet admirable, que je trouve, dicton viennois qui dit, pour donner un peu le ton de ce qui était à ce moment-là, ce dicton dit « La situation est certes désespérée, mais on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment grave ». Ce que dit Bettelheim, c'est qu'essentiellement, il y a, alors que le monde socio-culturel et politique, puisque donc l'empereur François-Joseph va mourir, il y aura la guerre de 14-18 et l'Empire austro-hongrois va s'éteindre, il y a parallèlement à cela une élite culturelle viennoise qui va pratiquement se détourner des réalités extérieures pour essayer de ne regarder que le monde intérieur et d'émettre toute son attention sur la vie interne de chacun. Et que ça, c'est pas seulement un phénomène qui est le début de la psychanalyse, mais c'est aussi la vie artistique. On peut reprendre ce qu'ont été les œuvres de Klimt, d'Egon Schiele, où manifestement la névrose, l'hystérie, c'était quelque chose qui les intéressait au premier point. C'est à ce moment-là qu'a été construite à Vienne le fameux hôpital psychiatrique moderne, enfin de l'époque, avec le Steinhof. Bon, voilà pour brosser un peu ce qu'en est de la Vienne de l'époque. Alors, pour ce qu'il en est des débuts de la psychanalyse, grosso modo, comment on peut dire les choses, Freud, jusqu'à pratiquement 1900-1901, travaille tout seul. Il va à Paris, il revient. Ce n'est qu'à partir de 1902 que se constitue ce qu'on appelle la Société psychologique du mercredi, où il essaie de réunir chez lui ses premiers compagnons d'analyse. La Société de psychanalyse de Vienne, elle est fondée en 1908-1910. Il y a plusieurs dates données, mais enfin bon, en gros, c'est ces années-là. D'emblée, Freud, dans un article, quand il parle du mouvement psychanalytique, Freud a toujours dit mouvement psychanalytique. C'est quelque chose qui est censé évoluer. Donc, une des premières choses que Freud a remarqué parmi cette petite société qui est en train de se monter, c'est qu'il n'y a pas particulièrement une concorde entre les différentes personnes. Il n'y a pas la concorde amicale qui doit exister entre les hommes, se consacrant au même travail dur et pénible. Et cela parce que devant le courage et le dévouement dont ils faisaient preuve, en s'adonnant à une occupation aussi décriée et aussi dépourvue de promesses d'avenir, j'étais disposé, dit Freud, à tolérer des membres de nos réunions beaucoup de choses qui m'avaient choqué dans d'autres circonstances. À cette époque, donc, Freud n'a pas encore l'idée de la psychanalyse didactique, c'est-à-dire que, à cette époque-là, il n'était pas évident pour les premiers analystes que pour être analyste, il fallait faire une cure de psychanalyse. Mais les membres de la société assurent individuellement la fonction enseignante, avec tous les aléas que cela peut représenter. Alors, de quoi est faite la composition de la société psychanalytique? Elle est faite essentiellement, il faut le dire, d'intellectuels juifs, dotés d'une formation médicale essentiellement, mais par ailleurs aussi philosophique et littéraire. Ce sont en général des personnes, en gros, issues de la classe moyenne. Mais le souci de Freud, très rapidement, c'est que la psychanalyse ne devienne pas une affaire juive. Et ça sera pour lui tout à fait important qu'il y ait des analystes qui ne soient pas juifs. Et là, bon, on peut dire tout ce qui s'est passé avec Jung. Un deuxième point qui est important, c'est que ça ne soit pas une affaire viennoise. Freud vis-à-vis de Vienne, il a toujours été très circonspect. Ce n'est que lorsqu'il s'est retrouvé en exil à Londres qu'il a pu admettre que Vienne, c'était pas si mal que ça. Mais Freud note que Vienne a tout fait pour faire croire qu'elle n'était pour rien dans la naissance de la psychanalyse. Contrairement à Janet, c'était pas psychiatre, donc il était neurologue, c'était le neurologue qui à l'époque faisait théoricien de la psychologie en France. Et Janet, lui, soutenait que l'atmosphère de sensualité et d'immoralité qui régnait à Vienne avait fait émerger la psychanalyse comme une sorte de projection théorique dans ces conditions viennoises particulières. Bon, c'est vrai que pour comprendre le contexte de la découverte de la psychanalyse, pour essayer de comprendre quelque chose à l'histoire de la psychanalyse dans ses débuts, il faut essayer de pas seulement s'intéresser aux biographies. Il y a toute une foule d'autres données qui ont un rapport direct avec l'histoire de la psychanalyse. Ce que je voulais dire d'autre aussi, c'était que donc conjointement à la société psychanalytique viennoise, il y avait ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, toute une lutte pour le pouvoir d'une bourgeoisie qui était en plein essor économique, bien que c'était encore tout à fait restreint. Et il y avait aussi simultanément la classe ouvrière qui était donc encore unie dans le mouvement social-démocrate et qui commençait donc à se manifester. Mêlé à tout ça, un antisémitisme féroce qui était alors partagé par la partie dominante, la partie politique dominante que représentaient les chrétiens sociaux et les pan-germanistes. Il y a donc toute une floraison de talents juifs, mécènes, créateurs de la vie culturelle, dans la presse, les modes, les goûts, les arts appliqués viennois, ce qu'on a appelé donc le Jugendstil, le style de la jeunesse, et qui, pour dire un peu aussi qu'il n'y avait pas que Vienne qui était dans l'antisémitisme, qui a été traduit en français par le goût juif, alors que c'est pas du tout une traduction. Mais lorsqu'il y a eu l'exposition des arts appliqués viennois à Paris, les Parisiens ont appelé le Jugendstil goût juif. Donc on en reste à cette idée que les psychanalystes viennois du début, par rapport même aux autres intellectuels, étaient certainement beaucoup plus assurés de la manière dont ils entraient dans une vie nouvelle, que par rapport même à Schnitzler, aux romans, aux œuvres de Schnitzler qui évoquent toujours un monde qui est en train de choir. Et les analystes, ils en étaient au contraire pas du tout là. Pour eux, ils savaient qu'ils étaient au début d'un mouvement important. Je vais passer tout ce qui est pour les premiers disciples de Freud. Hein. Donc il y a eu des générations successives d'analystes qui ont commencé. Alors on va dire un point particulier sur Freud et les psychanalystes femmes. Alors la première génération de psychanalystes femmes, elle est pratiquement inconnue. C'est des noms dont on ne met quelquefois même pas de visage dessus. Les seuls qui ont réchappé, c'est, et encore il faut voir, c'est la fameuse Eugenia Sokolnicka, qui a été l'analyste de Gide, si on peut dire qu'elle a été analyste, puisque Gide a fait 6 séances, après quoi il a déclaré forfait. Elle a immigré de Pologne, elle est passée par Vienne, et Freud lui a dit d'aller s'installer à Paris. Et elle est morte d'ailleurs dans des circonstances assez dramatiques, puisqu'elle s'est suicidée au gaz, avant 34. Parmi la première génération de celles qu'on appelle donc les filles adoptives de Freud, il y a bien sûr Hélène Deutsch, il y a celle qu'on appelle la princesse, Marie Bonaparte, qui est donc la descendante de Lucien Bonaparte, mais qui est juive par son côté maternel, qui avait une grand-mère juive. Et Freud, qui était, comme dit Rosen, quelque peu snob, était très content d'avoir une princesse dans sa société. Et on l'appelait d'ailleurs la princesse. Il y avait celle qui a été sa meilleure élève, qui est Ruth Mac Brunswick. Bon, puis il y en a d'autres. Mais alors il y en a une qui est Hermine von Hug-Helmuth, qui a été pratiquement rayée de l'histoire de la psychanalyse. Après, on aborde la seconde génération. Et la seconde génération, elle se marque par point précis, c'est que c'est toutes des amies de la fille de Freud. Freud avait 6 enfants, et la dernière de ses enfants, Anna Freud, est donc devenue psychanalyste. Et toutes ses amies, par exemple, prenons Eva Rosenfeld, qui était la nièce d'Yvette Gilbert, a été présentée par Anna Freud à Freud, et d'ailleurs a été analysée par Freud. Alors, de ces générations-là, par exemple, on sait à peine, premièrement, si elles ont été analysées, si elles ont eu une analyse, et on sait très difficilement par qui. En fait, Freud, il avait toute une camarilla autour de lui. On peut tout à fait comprendre ça, le génie de Freud pouvait tout à fait attirer une cour de femmes. Par contre, ce qui est sûrement vrai, c'est que Freud, il ne cherchait pas à attirer des engouements pareils. Manifestement, il est détesté. Mais comme dit Rosen, il avait beau détester les engouements, il en provoquait d'extraordinaires. Alors, tout à part est bien sûr Melanie Klein, mais qui est de la même génération que Anna Freud. Alors, j'ai fait un petit chapitre Freud et les enfants. Alors, les premiers analystes, Freud y compris, avaient littéralement peur de séduire leurs enfants. Et il y a toute une correspondance entre un analyste américain, Jackson Putnam et Freud. Alors, Putnam, c'était vraiment un distingué professeur à l'école de médecine de Harvard, un premier promoteur de la psychanalyse aux États-Unis, version allégée, parce que la psychanalyse aux États-Unis, c'était un peu particulier. Il écrit qu'il redoute de tenir ses filles sur ses genoux, et il fixa lui-même le siège de la bicyclette de l'une de ses filles par crainte de stimulation indue. Alors que, de nos jours, les analystes penseraient que, sans quelque forme de séduction indirecte de la part des parents, nourrissons et enfants seraient frustrés. Enfin, on en est quand même à penser qu'il y a un minimum de séduction nécessaire pour que ça marche bien entre parents et enfants. Alors, ça n'a pas empêché Freud d'analyser sa fille, donc Anna. Alors Anna, elle avait 23 ans lorsqu'elle fut analysée par son père. Ça a été une analyse d'ailleurs assez longue. On cite très souvent ce passage d'une correspondance de Freud à Eduardo Weiss. Eduardo Weiss demande conseil à Freud pour savoir s'il peut analyser son fils. Freud répond que lui, il l'a fait avec sa fille, que c'était possible, mais qu'avec un fils, il ne savait pas. En fait, Eduardo Weiss interpréta cette lettre comme une tentative de dissuasion. Freud ne s'occupait pas beaucoup des bébés. Manifestement, il les a laissés à sa femme Martha. Il ne donnait jamais le biberon, il ne les changeait pas. Il n'avait pas le droit de se promener avec papa avant d'être propre. Néanmoins, tout ce que je dis là a été rigoureusement enquêté par Rosen, qui a fait un travail admirable d'enquête auprès des personnes vivantes auprès de la famille Freud. Mais on sait que, néanmoins, Freud, ça lui est arrivé d'utiliser dans ses écrits certains matériaux fournis par ses propres enfants. Alors bon, il y a le rêve de fraise d'Anna dans l'interprétation des rêves, il y a tout ce qu'il en est de son petit-fils et de l'observation de son petit-fils, le fameux Heinerle. Et au dire toujours de Rosen, c'est Martha Freud qui a mis la femme de Freud, donc, qui a mis des limites à l'utilisation de leurs enfants comme objet de recherche. Manifestement, avec Anna, ça a été plus fort. Alors, Anna Freud, elle a pas fait une carrière scientifique, pas une carrière scolaire très, très compliquée. Elle a été maîtresse d'école, donc elle n'avait pas de formation scientifique. Et elle est rentrée à la Société psychanalytique de Vienne en 1922. Et elle devint analyste en 1923. Alors, si je parle autant d'elle, c'est que elle est considérée dans les milieux analytiques comme une des première psychanalyste d'enfant. Alors que, en fait, la première psychanalyste d'enfant, c'est Hermine von Hug-Helmuth. Alors, Hermine, donc, elle avait, j'allais dire, plusieurs défauts. Elle était femme, donc elle était psychanalyste femme. Elle n'était pas médecin, ce qui était vraiment très très rare donc à cette époque-là pour un psychanalyste. Et on sait qu'il y a toutes ces discussions autour de l'analyse profane, c'est-à-dire le fait que la psychanalyse ne soit pas exercée uniquement par des médecins. Donc c'était important qu'elle ne soit pas médecin pour Freud, sûrement. Et un point important, elle n'était pas juive. Ce qui l'a distinguée aussi énormément de la petite société. Elle est citée, ça son nom n'est pas rayé, dans toutes les biographies officielles de Freud, notamment dans la biographie de Jones. Elle est citée, par exemple, lorsque l'on dit qu'elle a été la première à dire que l'enfant, lorsqu'il se mettait à comprendre ce qui se passait dans sa pensée, il utilisait spontanément le jeu. Jones, donc le biographe officiel de Freud, note tout de suite le nom de Hugenmuth, mais il le rapproche immédiatement de Melanie Klein, étant donné que Melanie Klein a analysé les enfants de Jones. Que Jones avait fait venir Melanie Klein de Berlin pour analyser ses enfants, entre autres. Elle est citée aussi, son nom est cité dans un texte de Freud, un article de Freud qui est paru en septembre 1917 et qui est un souvenir d'enfance du roman de Goethe, fiction Dichtung und Wahrheit. C'est dans ce roman où Goethe se souvient d'avoir du plaisir à avoir jeté un jour de la vaisselle par la fenêtre. Et dans cet article, Freud, parce qu'un patient lui avait raconté cette chose-là, se rappelle du roman et l'associe aux naissances successives des frères et sœurs de Goethe. Et alors, Freud raconte ce fait lors d'une réunion donc de la Société du mercredi. Ça se passe le 13 décembre 1916. Et il demande si certains de ses collègues pourraient lui rapporter des faits confirmatifs de cette histoire. Et Hugenmuth, 4 mois après, raconte 2 cas semblables que Freud publie et qui sont toujours donc l'appendice de son article. Et elle est aussi citée dans la correspondance de Freud à Jung. Alors ça a été traduit en France dans les années 75, je crois. Et c'est là que moi j'ai appris la première fois, en somme, ce qui en était l'histoire de Hugenmuth, puisque il y a des notes qui sont rajoutées par l'éditeur lorsqu'il est question d'elle. Donc c'est Freud qui écrit à Jung, c'est toute la correspondance à cette époque entre Freud et Jung, où Freud dit qu'il a reçu un très beau travail de Hugenmuth, d'une femme intelligente, dit-il, qui vient à bout de l'énigme au moyen de notre psychanalyse, et il s'agit d'un travail sur l'audition colorée. Et alors c'est là qu'on apprend par une petite note, donc, que Hermine était institutrice, analyste non médecin, connue pour son travail avec les enfants, et qu'elle fut assassinée par son neveu qu'elle avait adopté, petit garçon, et qu'elle traitait. Alors là, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, on verra ça un peu plus tard. Bon, mais là où on apprend le plus de Hugenmuth, c'est dans la biographie qu'a faite Paul Rosen, qui est donc plus du tout une biographie officielle comme Jones l'a faite, mais qui est donc une enquête minutieuse auprès de tous ceux qui survivaient. Et alors, lui, ce que dit Rosen, c'est que c'est donc la première psychanalyste d'enfants, avant Melanie Klein et avant Anna Freud. Il y avait d'autres psychanalystes d'enfants hommes, mais comme Pfister, mais ils s'intéressaient plus particulièrement aux adolescents. Ce qui s'est passé pour Hugenmuth, ce que dit Rosen, c'est que elle a été terriblement jalouse lorsque Anna Freud donc a pris le devant de la scène pour ce qui est de la psychanalyste d'enfants. Elle est décrite et par Elaine Deutsch et par Rosen comme une femme menue, guindée, soignée, mais sans élégance, et que les autres n'avaient aucune peine à la tourner en ridicule. Rosen, tout de même, est tout à fait affirmatif quant à l'originalité de son travail. Il pointe donc que c'est elle qui a inauguré la méthode de thérapie par le jeu. Il pointe aussi qu'elle était, sans être proche de Freud, elle était dans une admiration folle pour Freud. Et donc, le 9 septembre 1924, quelques jours après le congrès de psychanalystes qui a eu lieu à Salzbourg, elle est assassinée par le fils illégitime de sa sœur qu'elle avait élevé. Le motif apparent, c'est l'argent. Sa mort, inutile de le dire, fut un grand choc dans la communauté psychanalytique. Et il y a eu une ample publicité dans tous les journaux de l'époque. Ce que je peux dire donc de Hougalmout, c'est que pratiquement rien n'a été traduit en français de son œuvre. Son œuvre est tout à fait importante, elle a fait plusieurs livres, il y a plusieurs articles, donc essentiellement sur l'âme enfantine, sur la vie, le fonctionnement psychique de l'enfant. Et il y a beaucoup d'articles également sur des petits garçons, et notamment donc les rêves d'un petit garçon à 5 ans et demi, plusieurs rêves de petits garçons qui effectivement peuvent évoquer, ça reste à vérifier parce que ça je ne les ai pas eu encore en main, ce qu'elle a pu utiliser comme matériau vis-à-vis de son neveu. On revient sur l'histoire de juste avant le crime. Ce qui est étrange, c'est tout de suite ce que dit Rodzen dans la brève histoire de Hougalmout, c'est qu'une semaine avant de mourir, elle avait demandé qu'on ne lui consacre pas de notices nécrologiques dans les publications psychanalytiques. Ce qui était effectivement assez curieux, parce que la tradition à ce moment-là, c'est que pour chaque mort, Freud faisait une notice nécrologique, et c'était tout à fait important pour lui d'en décrire tous ses rapports à cette personne. Alors, ce qui l'advint après, c'est que c'est un peu plus étonnant, si l'on peut dire. Le jeune homme donc purgea sa peine, et une fois relâché, il s'adresse à l'un des plus vieux disciples, puisque c'est Federn, pour lui dire qu'il s'estimait victime de la psychanalyse et qu'il voulait obtenir de l'argent à titre de victime de la psychanalyse. Alors à ce moment-là, il s'est trouvé un autre analyste dans la même société, dénommé Hitchman, qui recommanda au jeune homme d'aller faire une cure chez Hélène Deutsch. Alors c'est donc ce que raconte Hélène Deutsch dans son autobiographie, qui est très tardive, puisque elle, ça a été édité aux États-Unis, je crois, dans les années 70, quelque chose comme ça. Alors, le neveu n'alla pas trouver Hélène Deutsch, mais ce qui... Hélène Deutsch, de toute façon, était complètement outrée qu'on ose lui adresser un assassin, et ne voulait surtout pas se mettre à être une nouvelle analyste assassinée. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que le mari d'Hélène Deutsch, Félix Deutsch, a embauché un détective privé pour suivre le jeune homme. Et Hélène Deutsch dit que quand elle parcourait Vienne, elle s'apercevait qu'il y avait un premier jeune homme qui la suivait, puis un autre qui suivait le premier jeune homme, et qu'il s'agissait du neveu et ensuite du détective privé. Alors, bon, encore une fois, le neveu se faisait suivre d'une autre manière. Et alors, Hélène Deutsch termine son petit truc, son petit morceau sur Hougalmout en disant que le neveu ne se fit pas remarquer par la suite par un nouveau crime. Bon, alors je suis donc allée voir dans la presse viennoise, dans les journaux la Neue Freie Presse et la Neues Wiener Tagblatt, qui sont des journaux qui n'étaient pas innocents de psychanalyse, puisque au tout début, lorsque l'interprétation des rêves est sortie donc en 1900 à Vienne, il y avait déjà dans la Neue Freie Presse des critiques, et toutes les réunions du mercredi avaient un compte-rendu par un dissident, il est vrai, Stecken. Toutes les discussions avaient leur compte-rendu dans l'édition dominicale du Neues Wiener Tagblatt. Alors, ce qu'on a appris dans ces journaux, c'est que le matin du 9 septembre 24, la bonne arrive au petit matin, frappée à la porte de Madame Hougalmout, qu'elle sonne, qu'on lui répond pas, qu'elle crie « la chaîne est mise », et qu'elle lui dit de venir l'ôter. Et en fait, elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Hougalmout ne bouge pas, on appelle le serrurier, il force la porte, et on se trouve devant le corps de Hougalmout qui est étendu sur un sofa. D'abord, on commence à penser que peut-être, on voit bien qu'elle est morte. Les premiers articles, le premier article du soir, de l'édition du soir, marque suicide ou crime. C'est vrai qu'à cette époque, on se suicidait beaucoup. Et puis on s'aperçoit vite qu'il y a des traces, des bris de glace, qu'il y a quelqu'un qui a pénétré dans son appartement, qu'il y a un vol d'argent et de bijoux et qu'il y a des traces de pas sur le mur extérieur de la chambre où dormait Hougelmout. Les voisins qui disent « Oui, on a bien entendu des bruits dans la nuit, mais il y a toujours ce ménage qui se chamaille toujours. Et alors, on a pensé que c'était eux et qu'il y en a bien un qui a entendu « Que veux-tu, cochon, au secours ?» Mais il n'a pas bougé, pensant qu'il s'agissait du mari et de la femme qui se disputaient. Alors, les soupçons se portent très vite sur le neveu, qui s'appelle Rudolf Otto Hug, qui est chimiste de profession et qui est le seul parent connu de Hougelmout qui vivait seul. Il est immédiatement repéré dans la banlieue viennoise. À ce moment-là, il était dans une petite ville de banlieue qui s'appelait Mürzuschlag. Et il y a un commissaire qui vient le chercher là et un autre commissaire qui vient l'arrêter à la gare du Sud. Et là, on le fouille et il est porteur de 2 millions de couronnes et d'une montre en or appartenant à sa tante. On apprend aussi dans les articles que Hermine Ludovica Hougelmout portait en fait comme véritable nom à l'état civil Hug von Hungenstein et qu'en fait elle était la fille d'un major décédé, donc d'un médecin de l'armée, que son père travaillait au ministère de la guerre. Et que, comme tous les aristocrates de l'Empire austro-hongrois à cette époque-là, à la fin de l'Empire, on leur avait enlevé leur titre de noblesse. Mais enfin, on ne lui avait pas enlevé Hougenstein. Elle aurait pu s'appeler Hougenstein. Et donc, je ne sais d'ailleurs toujours pas encore pourquoi elle fait suivre son nom de Hug de Helmut. Je ne sais pas à quoi correspond Helmut. Et il est question aussi dans les articles de la sœur Anthony Hug, qui est donc plus âgée que Hermine, qui était professeure dans un lycée, donc elle était professeure dans un établissement secondaire, qui est décrite, au contraire de Hermine, comme une personne jolie, très élégante, et qui est décédée à l'époque où se passe le crime, puisqu'elle est morte, elle, en 1915, à Balzano, d'une tuberculose. Le père de Otto, du neveu, est... pratiquement absent. La seule chose qui est dite, c'est que c'était un professeur privé qui n'a donc pas pu ou pas voulu subvenir aux besoins de son fils. À part ça, on dit que c'est un brave homme, mais on ne dit pas autre chose de lui, on cite son nom. Donc le neveu, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est, on sait sa date de naissance, on sait qu'il est né à Graz, on sait qu'à la mort de sa mère, il a vadrouillé un peu entre diverses villes, Vienne, Krems, Graz, que sa scolarité a été très mouvementée, qu'il a été placé en 1922 dans un foyer, qu'on peut appeler une sorte de foyer d'éducation surveillée, qu'il a été souvent chômeur, et que là, il s'était installé dernièrement à Mürzuschlag, dans une famille de paysans, et qu'il songeait à se marier avec une jeune femme qui avait 10 ans de plus que lui. C'était là son intention. Le procès, ça a été un peu plus difficile à trouver parce qu'on n'avait pas de date, donc il a fallu chercher. Alors le procès, c'est assez étonnant parce que ce que disent les articles, c'est que ce qui apparaît, c'est un jeune homme qui a une très belle allure, qui a des cheveux soigneusement coiffés en arrière, qui a un regard sympathique, qui est plein de révérence envers les psychiatres, le président, qui est parfaitement à l'aise pour répondre aux questions. C'est manifestement un garçon qui est imbu de sa personne. On le présente comme ayant un cynisme courtois, une sincérité cérémonieuse, une franchise pleine de coquetterie. Ça se passe mal en prison pour lui. Il faut dire que les prisons viennoises, ça c'est Barbro qui me l'a dit, les prisons viennoises sont à l'époque les plus dures d'Europe. Il doit subir 2 sanctions disciplinaires en prison pour révolte contre les surveillants. Il reconnaît d'emblée sa culpabilité dans la mort de sa tante. Mais il affirme continuellement et avec force que ce n'était ni volontaire ni prémédité. Il a longuement évoqué son passé après la mort de sa mère. Il est aussi longuement évoqué les multiples vols et extorsions d'argent à sa tante, mais aussi à d'autres personnes. Mais ce qui frappe dans les comptes rendus du procès, en tout cas les comptes rendus qui sont dans les journaux, c'est que à aucun moment, alors que manifestement il a une haine énorme par rapport à sa tante, chaque fois qu'il a envie de l'exprimer, le président l'arrête en lui disant que sa tante est la victime et que il n'est pas possible qu'il dise quoi que ce soit sur une tante qui a été si bonne, qui est tout de même psychanalyste. C'est vraiment une victime intouchable, c'est une martyre. Il y a un point particulier qu'il faut dire, c'est que il est question de psychanalyse, bien sûr, dans ce procès. Le président, quand il aborde la personnalité ou la personne même de Hogelmuth, la présente comme une écrivain. Et tout de suite, le neveu rectifie en disant « Mais non, elle était psychanalyste. » Alors le président répond « Mais ce n'est que de la littérature. » Et le neveu réinsiste en disant « mais non, elle était psychanalyste. » Et il montre qu'il est le neveu tout à fait au courant des théories de la psychanalyse dans ses réponses. Alors le président enchaîne en disant « Mais enfin, elle vivait dans un tout petit appartement. » L'air de dire « Mais si elle était psychanalyste, elle vivrait sur un autre train de vie. » Et le neveu répond de façon tout à fait juste en disant « Mais vous savez, par les temps qui courent, on n'a jamais trop d'argent. » Ceci dit, je crois qu'effectivement, Hogelmuth avait une certaine fortune et qu'elle vivait très chichement. En tout cas, très modestement. Alors, quelques mots sur les témoins. Essentiellement, le témoin qui est troisième. Alors, le second que j'ai pu tout à fait identifier, parce qu'il est tout à fait connu, qu'il a une histoire très particulière, c'est le fameux Victor Tansk. C'est aussi quelque chose qui a été tout à fait caché pendant des années et qui n'est ressorti que très tardivement dans l'histoire de la psychanalyse, puisque c'était un poète, un écrivain de génie, qui avait tout à fait senti très justement ce qu'était le génie de Freud, et il y a eu manifestement une rivalité très forte entre les deux hommes. Tosk manifestement était quelqu'un qui avait passablement des difficultés dans sa vie privée, et il a voulu être analysé par Freud. Freud, qui ne tenait pas à être très proche de Tosk, Freud, sa politique, quand il sentait qu'il avait en face des hommes qui pouvaient découvrir en même temps que lui ce qu'il était en train de trouver, il avait pour politique de les mettre à distance et de ne pratiquement jamais plus les rencontrer. C'est ce qui s'est passé avec Tosk, donc il n'a pas accepté de l'analyser. Mais par contre, il a dit à Tosk d'aller se faire analyser chez Hélène Deutsch. Alors Hélène Deutsch, à ce moment-là, on le sait, était en analyse avec Freud, ce qui donnait un singulier chassé-croisé, puisque donc, quand Hélène Deutsch était sur le divan de Freud, elle racontait ce qui se passait de Tosk. La cure d'Hélène Deutsch était complètement embolisée par cette histoire-là. Freud en a eu marre très rapidement qu'Hélène Deutsch ne parle dans sa cure que de Tosk. Et ça s'est terminé tragiquement, c'est-à-dire que Freud a ordonné quasiment à Hélène Deutsch d'arrêter l'analyse de Tosk, en lui faisant pratiquement du chantage, en lui disant qu'autrement il arrêterait son analyse avec lui. C'est ce qui s'est passé, Hélène Deutsch a donc arrêté son analyse, l'analyse de Tosk avec elle, et Tosk s'est suicidé quelques temps après. Par ailleurs, ce que l'on peut pointer, c'est que Tosk était aussi connu pour être un des amants de Lou Andrea Salomé. C'était avant la guerre, ça. Donc, en 1919, Tosk se suicide et le neveu donc se retrouve sans tuteur. Et c'est à ce moment-là qu'on trouve un troisième tuteur qui est Isidore Sadger, ou Sadger, comment on dit ? C'est aussi un personnage étrange de la première génération. Il n'a pas été dissident, mais il n'en a pas été loin. Freud n'est pas très chaleureux envers lui, il n'est pas très élogieux. Il lit au procès toutes sortes de lettres qui ont été échangées entre Hogelmuth et lui. Il dit que Hogelmuth n'avait pas son neveu en thérapie, ça il est formel là-dessus. Mais il dit que ce qui était désagréable au neveu, c'était que sa tante, grâce à ses connaissances psychanalytiques, perçait immédiatement à jour les motifs de ses faux pas. Sadeguerre, lui, il a une conception très particulière du vol, que l'on ne peut pas dire qu'il soit analytique, puisque les premiers vols, il les fait remonter à l'âge de 5 ans. Et on note d'ailleurs qu'à partir de 1919, quelque chose qui correspond au fait que Tosk va mal et se suicide, les vols prennent une allure quasi systématique. Et que donc, dès que Sadeguerre devient tuteur, lui porte plainte. Et que c'est comme cela que le neveu se retrouve au foyer d'éducation surveillée. Et alors, Sadeguerre, par exemple, a une réplique étonnante lors du procès. Il dit que nous, psychanalystes, sommes d'avis que l'homme à 5 ans est déjà achevé depuis longtemps. Et que donc, pour lui, la chose était admise, c'était un voleur, il n'y avait rien à faire de cet enfant, sinon qu'à le mettre dans des foyers d'éducation surveillés. D'ailleurs, à cette époque-là, il l'avait enlevé d'une école professionnelle. Ce que le neveu reproche amèrement à sa tante. Ce Sadeguerre, d'ailleurs, n'était pas quelqu'un de très sympathique. Il s'oppose au fait que dans les réunions du mercredi, il y ait des femmes qui viennent. Alors, il a aussi mal terminé. Il est juif et c'est le seul psychanalyste qui a péri des mains des nazis. À l'Anschluss, tous les psychanalystes ne sont pas partis, puisqu'il y avait encore Freud qui était encore au moment de l'Anschluss. Et il y a eu une solidarité internationale qui a existé, puisque tous ont pu partir, sauf Sadeguerre. Entre autres, pour la petite histoire, on avait demandé au fils de Tosk. Tosk, pour la petite histoire de la bibliothèque, avait deux fils qui s'appelaient Marius et Victor Hugo. Et ces deux fils ont brillamment réussi, en s'exilant très rapidement, eux. Et l'un a été endocrinologue et pharmacologue célèbre, je crois que c'est dans les Pays-Bas. Et donc, quand les psychanalystes viennois se sont trouvés au moment de l'Anschluss dans la nasse, ils ont eu l'idée d'écrire au fils aîné de Tosk en lui demandant des subsides, parce qu'effectivement, il était question de trouver de l'argent pour partir vite. Rappelant alors au fils de Tosk qu'ils avaient payé les études de médecine de Tosk. Et le fils Tosk a tout à fait obéi à la loi sociale juive d'envoyer de l'argent pour que trois ou quatre analystes de l'époque puissent quitter Vienne. Et un mot sur l'expertise psychiatrique, elle dit qu'il est totalement sain d'esprit. L'expert psychiatre rappelle l'œuvre de Hugelmuth, notamment ce livre qu'elle a écrit sur la vie psychique de l'enfant. Il pointe la précocité sexuelle du neveu. Et il dit que, à part les quelques éléments atténuants que sont l'éducation trop conciliante de la mère et l'éducation inégale de la tante, pour lui, le neveu est normal. Et alors l'avocat dit, manifestement, le neveu, lorsqu'il s'est trouvé chez sa tante pour la voler, il a manifestement été dans un drôle d'état à ce moment-là. Manifestement, ça a été un état de peur qui s'est emparé de l'accusé et qui l'a obligé à passer à l'acte. Et qu'il s'agirait peut-être d'un désarroi psychique profond. Et alors l'expert psychiatre répond, non, c'est une dépravation morale. Le verdict est porté, et donc Rudolf Otto Hug est condamné pour meurtre à 12 ans de prison aggravée. Alors, je ne sais pas encore ce que veut dire prison aggravée. Mais enfin déjà, quand on sait que les prisons de Vienne n'étaient pas drôles, aggravée, je me demande ce que ça veut dire. On lui reconnaît des circonstances atténuantes, qu'il a lui-même reconnu le vol et la réalité du meurtre, qu'il y avait un laisser-aller dans son éducation en sa faveur, qu'il était jeune, qu'il avait une certaine médiocrité morale, mais il y a des circonstances aggravantes, c'est qu'il y a à cette époque une concurrence d'un grand nombre de crimes, que c'était tout de même sa tante, et que le crime a été commis pendant la période de mise à l'épreuve, puisqu'il était déjà condamné pour vol. Alors, il y a un dernier petit article qui s'appelle « Le meurtrier à la mode, le meurtrier dans le vent », où il fait mention du public qui, dès qu'il voit le jeune homme séduisant arriver dans le siège de l'accusé, il y a une dame qui s'écrie « Mais il est vraiment très séduisant ». Cet article tourne tout autour de « C'est un criminel par superficialité ». que ce sont les bâtards de l'esprit du mal de notre époque qui sont nés du croisement de l'appétit de vivre et de l'adoration sans scrupule de la réussite. Et Ougelmout est présenté comme celle qui savait lire le langage codé de ses pulsions. C'est pourquoi elle avait pressenti son crime. Dans la correspondance au tuteur Sadger, il est continuellement fait mention qu'elle savait comment ça se terminerait entre elle et son neveu, et elle savait même sous quel mode ça se passerait. Elle avait marqué qu'elle serait étranglée. Effectivement, elle a été étranglée. Bon, je vous ennuie pas trop. Bon, alors on aborde la seconde partie. D'abord, ce qu'il en est du journal dans le mouvement psychanalytique viennois. Le livre paraît dans 3 éditions allemandes. Il n'y en a toujours pas de 4e et pour le moment, ça paraît pas possible. Puisqu'à la suite de la 3e édition, il n'est plus imprimé. Et la supposition que j'ai, c'est la dernière édition allemande de 1922, enfin viennoise de 1922. Et donc après la mort, l'assassinat de Ougelmout, qui a été tout à fait étouffé, il n'y a plus d'édition. En tout cas, Freud a sûrement interdit les éditions suivantes. La première édition, elle date de 1919, la deuxième de 1921 et la troisième de 1922. Alors, la première édition de 1919, elle apparaît comme celle que l'on a dans la bibliothèque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom de l'auteur, et il y a seulement la lettre préface de Freud. La lettre préface de Freud, elle existe donc dans les œuvres complètes de Freud, elle est datée de pendant la guerre de 14, puisqu'elle est datée du 27 avril 1915, et on voit que c'est une lettre particulièrement élogieuse, nous allons la lire. Et bon, elle aborde ce que Freud appelle la sexualité infantile, sans d'ailleurs la nommer du tout dans sa préface. Bon, alors je crois que je vais m'arrêter, que je vais laisser la place à Freud.
Ce journal est un petit joyau. Je crois vraiment que jamais encore ne pénétra avec une clarté et une sincérité semblables les mouvements qui caractérisent, au stade actuel de notre société et de notre civilisation, le développement de la jeune fille dans les années de la prépuberté. Comment les sentiments naissent et croissent à partir de l'égoïsme enfantin pour atteindre la maturité sociale? Quels sont les...
Ah. Alors, non, ce qu'il vous lit là, c'est oui. Effectivement pas la traduction de Clara Malraux.
Oui, on a rectifié.
On a rectifié la traduction, on a fait du mot à mot pour...
Alors ça doit être à peu près à un mot près, n'est-ce pas? On va vérifier ensuite. Quels sont les premiers aspects des rapports avec les parents et avec les frères et sœurs? Et comment ils gagnent ensuite petit à petit en sérieux et en intimité? Comment sont tissées puis abandonnées les amitiés? Et comment la tendresse cherche à tâtons ses premiers objets? Et avant tout, comment le secret de la vie sexuelle émerge, d'abord brouillé, pour ensuite prendre entièrement possession de l'âme enfantine? Comment cet enfant souffre des dommages que lui cause la conscience de son savoir secret et le surmonte peu à peu. Tout ceci est exprimé de façon si charmante, si naturelle et pourtant si sérieuse dans ce journal et sans artifice qu'il doit inspirer le plus haut intérêt aux éducateurs et aux psychologues. À mon avis, il est de votre devoir de publier ce journal. Mes lecteurs vous en seront reconnaissants.
Voilà donc la préface de Freud. Ce que dit Freud, c'est que les enfants ont des vies affectives d'une grande complexité, pour lequel donc il faut avoir un respect. Freud ne traitait pas directement les enfants, il n'a jamais eu d'enfants en analyse. Il s'intéressait seulement donc aux observations et aux souvenirs d'enfance de ses patients. Bon, je vais pas faire beaucoup de choses sur ce qu'est le concept de sexualité infantile. Ce qu'il y a, c'est à noter, c'est qu'en 1915, Freud, en somme, change son fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'il a abandonné la théorie de la séduction quand il écrit son l'ami Fliss qu'il a abandonné, qu'il ne croit plus à sa neurotica, c'est-à-dire à la théorie de la séduction, c'est-à-dire que c'est les parents qui séduisent leurs enfants. Donc la théorie de la sexualité infantile arrive après ça, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans la vie, dans la pensée, dans le fonctionnement psychique de l'enfant. Et que c'est donc quelque chose qui va faire prendre à la psychanalyse, aux théories psychanalytiques, une direction tout autre. Un seul mot donc sur la sexualité infantile, c'est que pour Freud, on ne peut pas dire que ça soit tous les avatars de relations d'amour sur le monde de sexualité infantile. C'est essentiellement de désir dont il est question. Bon, alors, on arrive à la première préface, c'est-à-dire la première édition allemande, qui est automne 1919. Alors, Dominique Sobroni va vous lire la première préface qui inclut la lettre préface de Freud qu'on ne va pas relire, mais qui...
Dans les pages qui suivent, est publié le journal d'une jeune fille adolescente issue d'une bonne famille bourgeoise. Je ne saurais lui trouver de meilleure introduction que les mots du professeur Freud, qui, dans la lettre qu'il m'a adressée le 27 avril 1915, le qualifie de contribution à la mémoire culturelle de notre temps. Suit donc la préface qu'on vient de vous lire. Pour la publication de ces pages, rien n'a été enjolivé, ajouté ou censuré. Les seules modifications visent à préserver l'anonymat des personnes par le choix d'autres noms de lieux, de familles, de prénoms, et par la suppression de tout ce qui pourrait conduire un initié à retrouver les traces de l'auteur. Ce faisant, j'exauce le vœu de la propriétaire de ce journal qui m'a confié ces textes, me laissant libre de leur utilisation au service de la science. Les petites aspérités du style, les fautes grammaticales ont aussi été respectées. La plupart d'entre elles ne doivent pas être considérées comme l'expression d'une maladresse enfantine, mais plutôt comme l'expression de courants affectifs, comme de véritables actes manqués, fruits de l'inconscient. Vienne, automne 1919, l'éditrice.
Voilà, alors donc cette première préface, la première édition, elle est anonyme, c'est-à-dire que c'est l'éditrice. Il n'y a pas de nom, on n'en sait pas plus sur l'auteur du journal. La seule chose qu'on peut signaler, c'est qu'elle dit que tout a été respecté, notamment les aspérités du style et les fautes grammaticales, et qu'elle dit qu'ils ne sont qu'à prendre sous l'angle psychanalytique, mais par exemple, il n'y a pas un mot sur l'antisémitisme féroce du journal. On en reparlera tout à l'heure, mais ça veut dire sans doute que l'antisémitisme viennois était très important. La préface de la deuxième édition, malheureusement, je ne l'ai pas encore. C'est-à-dire que j'ai, moi, trouvé deux éditions originales allemandes grâce à deux amis. J'ai donc eu que la troisième édition originale allemande. Et je suis en train de chercher la deuxième édition parce qu'il y a sûrement une préface intéressante. Alors la troisième édition a une préface qui est signée mai 1922, c'est donc la troisième et dernière allemande. Elle est très intéressante, on va la lire en entier, parce qu'elle évoque qui est précisément l'auteur du journal, ce qui bien sûr n'est pas du tout marqué dans la traduction française de Clara Malraux, qui a sans doute eu à traduire la première édition originale, donc où il n'y avait rien d'écrit.
Le journal d'une adolescente a suscité de toutes parts un tel intérêt scientifique et purement humain que le souhait du lecteur d'en savoir plus sur l'impression que donnait l'auteur dans ses rapports personnels, sur ses dons, sur son caractère et enfin sur son destin futur est bien compréhensible. Pourtant, les pages du journal donnent à ces questions, à l'exception de la dernière, de meilleures réponses que ne le feraient des descriptions d'une autre personne. Mais comme on estime ne pas en avoir appris assez sur ces questions, on voudrait au moins connaître le nom de l'éditrice. Dans la mesure où ce vœu correspond à la volonté de s'assurer, dans une certaine mesure, d'une garantie d'authenticité du journal, il est compréhensible et justifié. Ici et là surgissaient des doutes en ce sens qui semblaient confortés par l'anonymat de l'éditrice. De solides arguments personnels m'ont jusqu'ici empêché de garantir par mon nom l'authenticité du journal. Ceci me paraissait être un détail de peu d'importance, puisque le nom du professeur Freud était une caution bien plus grande. Après la deuxième édition, mes arguments personnels ont disparu, et de n'avoir plus à taire mon nom comme éditrice est pour moi une libération. Et je peux ainsi répondre aux vœux de nombreux lecteurs qui veulent avoir sur l'auteur des renseignements qu'ils ne trouvent pas dans le journal. Les informations que je peux donner, sans faillir à ma promesse de silence, suffiront à répondre à l'intérêt scientifique, toute curiosité, restant évidemment insatisfaite. La jeune fille n'a jamais été en traitement psychanalytique. Elle avait 19 ans quand je fis sa connaissance, vivait dans une pension à Vienne et s'apprêtait à passer le baccalauréat. Elle avait entendu dire par des amis communs que j'avais moi-même passé cet examen après des études privées et me demanda conseil sur les méthodes et la durée de cette formation. Finalement, elle me demanda de la préparer moi-même, au moins dans quelques matières, allemand, mathématiques, physique et psychologie. Durant cette année de travail commun, je fis connaissance en elle d'un être que son caractère loyal rendait digne d'affection. Des dehors aimables, un caractère gai et un commerce agréable en faisaient une personne tout à fait sympathique. Ses capacités intellectuelles n'étaient en aucun cas supérieures à la moyenne. Elle me donnait même parfois l'impression que d'une façon ou d'une autre, son développement intellectuel s'était arrêté. Une certaine fébrilité, une certaine impatience, à côté d'une volonté de ne pas rester en retrait, caractérisaient son esprit. Pourtant, plus fort que son ambition était son refus de tout effort intellectuel durable, et c'est ainsi qu'elle renonça de nouveau à son projet de préparer le bac. Seuls les rapports de psychologie avaient véritablement captivé son intérêt et réveillé toutes sortes de souvenirs de son enfance, sans pourtant que je puisse me permettre jamais de me faire une image nette de sa vie en famille, à partir des déclarations occasionnelles qu'elle me faisait sur ses relations avec sa sœur, son frère, ses parents, ses amis à l'école. À l'époque, je ne savais pas que ces fragments me seraient plus tard précieux. Nous avons conservé des relations amicales superficielles. 2 ans plus tard, elle me fit part de ses fiançailles et m'apporta une liasse de pages d'un journal qu'elle avait à ce tournant de sa vie voulu détruire, le considérant comme une puérilité sans valeur. Puis, se souvenant de mon intérêt pour la vie psychique de l'enfant, elle s'était résolue à me le remettre pour une éventuelle exploitation. C'était un paquet volumineux, de feuillets de tout format, froissés, en partie effacés, souvent illisibles, des pattes de mouche, authentiques, d'une main d'enfant négligente. Comme il n'était pas rare qu'on mette à ma disposition les relations, en prose ou en poésie, des épanchements du cœur de jeunes gens en analyse, relations en général vraiment de peu de valeur, car maniérées, visant à faire effet, je me mis à la lecture avec un certain scepticisme. Plus j'avançais dans cette lecture, plus ce journal, indubitablement original, d'une jeune fille à peine adolescente d'après l'écriture, plus le contenu, le niveau stylistique, me parut précieux. Je lui écrivis en ce sens. J'ai cité des passages de sa réponse à ce sujet dans ma préface à la 2e édition. La vie de la jeune fille ne connut pas un dénouement heureux. À la déclaration de guerre, la jeune fiancée, qui avait espéré passer Noël 1914 auprès de l'homme aimé dans son propre foyer, partit servir comme infirmière sur le front de Serbie. Ni physiquement, ni psychologiquement, elle n'était prête à affronter les exigences énormes de son service de soignante. Elle succomba à l'assaut des expériences vécues dans son nouveau cadre de vie. La nouvelle de sa mort prématurée ne me parvint indirectement qu'après plus d'un an, car je ne connaissais aucun de ses proches. Quelques mots, enfin, de la critique. La plupart des articles louent la signification du journal, monument culturel de notre temps, dans toute son ampleur. À côté de cette critique compréhensive, de loin majoritaire, apparaissent, je l'ai déjà dit, des doutes quant à l'authenticité du journal. Un tel ou un tel s'efforce avec plus ou moins de perspicacité de prouver qu'il s'agirait d'une mystification bien réussie, d'une reproduction des expériences vécues d'un enfant par la main d'un adulte. Cyril Burt, le plus violent des critiques contre le journal, mais d'abord en doute dans le British Journal of Psychology, d'août 1921, la persévérance de l'auteur, tout à fait inhabituelle pour une enfant de 11 à 14 ans et demi. Il dénombre l'apparition en moyenne de 400 mots à l'heure, une bonne performance pour un enfant, et estime tout à fait invraisemblable la continuité de la tenue du journal dans l'intimité qu'imposait une sœur d'une curiosité inquisitoriale et une mère anxieuse. Il souligne, dubitatif, la construction logique du journal et les contestations des points de vue des parents. Le journal lui paraît former un tout de façon étonnante, et l'introduction des personnages, presque dramatiques, qui rendraient toute note en bas de page superflue, lui semble factice. En faisant ces objections, le critique ignore l'attitude typique d'un enfant à l'égard de son entourage. Jalouse de sa sœur aînée, l'enfant de 11 ans ne se lasse pas de rivaliser avec elle, et ce qui au début pouvait être ressenti comme une obligation pénible devient peu à peu une habitude, un besoin. Celui qui a lui-même tenu un journal dans sa jeunesse, ou qui connaît de tels journaux d'autres jeunes gens, ne trouve rien d'étonnant au fait que les enfants soient en général d'une minutie presque pénible dans la présentation des personnages et de leurs relations entre eux. Tout individu qui intervient dans le monde affectif de l'enfant lui semble si important qu'il lui paraît aller de soi de décrire minutieusement ses relations à lui-même et aux autres. C'est une caractéristique que nous trouvons pénible dans les textes d'adultes d'un niveau intellectuel modeste. Je n'ai jamais eu l'impression que Rita avait écrit son journal pour son ami. Les enfants avaient simplement échangé la promesse de laisser l'autre consulter son propre journal, ce qu'elle là laissa son ami faire pendant sa convalescence. Le critique que choque la continuité de la rédaction aurait pu facilement se rendre compte que les événements qui affectent le moi tout entier de l'enfant, les préparatifs des jours de fête, du séjour à la campagne et du retour à la ville, les résultats scolaires menaçants, la maladie et la mort de la mère aimée, ont eu pour conséquence l'interruption pendant des jours et des semaines de la rédaction. Et si la longueur du journal lui semble invraisemblable, on ne peut que lui répondre qu'il y a déjà parmi les enfants, comme parmi les adultes, des individus qui ont la passion de l'écriture. La clandestinité et la hâte ont seulement rendu la rédaction plus difficile à déchiffrer, une peine que je prie volontiers. Si la critique qualifie le style de pratiquement inchangé pendant ces 3 ans et demi, je considère que c'est un manque d'observation de sa part. Ce sont précisément des notes sans apprêt, comme on jette sur le papier une jeune fille dans la moyenne de 11 à 14 ans et demi, sans calcul, simplement avec son affectivité. On a enfin à plusieurs reprises reproché à la jeune Rita un étonnant manque d'intérêt majeur. Mais elle a vécu sa jeune existence dans le cercle bien gardé des siens, à une époque que n'agitaient pas de grands événements. Donc ça n'est pas étonnant que la famille et le cercle d'amis intimes représentent tout pour elle. Ainsi, elle est simplement l'exemple typique de la fille d'une famille élégante de fonctionnaires viennois, tout comme son amie Ella représente le type de la fille d'un officier autrichien d'avant-guerre. Non, rien n'est faux dans le journal. Rien n'a été changé, à l'exception des noms de personnes et de lieux, et de la profession du père de l'auteur. C'était bien un assez haut fonctionnaire de l'État, mais ne dépendant pas de la justice. Ce sont d'authentiques enfants viennoises, comme on en trouvait avant 1914, aimables et charmantes dans leur milieu étroit et sûr, d'où ne pouvait venir les arracher aucune pulsion ni désir pour de grandes expériences. Même le secret du sexe relève davantage de l'intellect que de la sensualité, car il est si étroitement lié aux figures du père et de la mère que c'est plutôt l'interdit qui attire plutôt que le mystère lui-même. On a aussi regretté à plusieurs reprises qu'ayant détruit l'original du journal, je n'ai pas conservé quelques feuillets de chaque année, sans porter préjudice à ma promesse à la jeune fille, pour pouvoir prouver l'authenticité du document par l'évolution de l'écriture. Quant à moi, je pense que le sceptique vraiment incorrigible ne serait pas tranquillisé par un tel facsimilé. Le doute est pour lui une nécessité, et c'est pourquoi il ne se laissera pas persuader par des preuves. Vienne, mai 1922, docteur Hermine Wugelmuth.
Voilà donc cette préface de la 3e édition. Ça se termine par une réponse assez persécutante, où on lui demande des preuves. L'original est détruit, il n'y a pas un seul feuillet qui subsiste. Et elle répond, le sceptique doutera toujours, il est incorrigible. Effectivement, si elle répondait comme ça à son neveu, je peux un peu comprendre ce qui est arrivé après. Bon, ce faisant, il est sorti récemment le journal d'adolescence de Karen Orné. Il en est fait mention dans un article du Monde il y a quelque temps. C'est vrai que ça ressemble beaucoup au journal ici et de Wugelmuth. Là, il y a aucun doute, il y a les feuillets. Bon, alors, on va quand même aborder la France. Quelques mots sur le mouvement psychanalytique français. Il est très tardif donc par rapport au début de la psychanalyse, puisque la société psychanalytique française, elle s'est constituée en 1926. Il y a eu 12 membres donc qui l'ont constituée. Ça se comprend pour diverses raisons. D'abord parce que il y avait en France d'excellents psychiatres, une tradition autochtone de psychothérapie, et surtout ce qu'il en était de l'époque faisait que la psychanalyse était considérée comme une œuvre allemande et donc étrangère, et qu'il n'y avait pas grand-chose à en attendre. De plus, côté psychiatrie, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une école psychiatrique française qui est quelque chose d'une entité par rapport à l'école psychiatrique allemande. Donc on peut penser qu'effectivement les psychiatres français ne sont pas d'emblée allés voir ce qui se passait. Bon, l'on sait aussi que parmi ces premiers analystes, c'est essentiellement des étrangers, des Alsaciens, Eugenia Sokolnicka, et elle a été fondée par la fameuse princesse Marie Bonaparte. Donc il y a eu deux voies d'accès de la psychanalyse dans la société française, il y a eu la voie psychiatrique, et essentiellement donc la voie littéraire qui a été antérieure. On peut penser que Clara Malraux, c'est là qu'elle a puisé sa traduction. C'est donc le mouvement surréaliste qui a le premier été intéressé par la psychanalyse. On sait que André Breton est allé voir Freud à Vienne, qui s'est fait un peu ramasser d'ailleurs. Il croyait que Freud allait le recevoir. En fait, il a attendu longtemps dans la salle d'attente et puis Freud l'a reçu à peine en lui montrant toute sa collection. La révolution surréaliste a publié en 1928, donc la date de l'édition, de la traduction de Clara Malraux, tout un compte-rendu d'un débat qui s'appelle « Recherche sur la sexualité, part d'objectivité, des déterminations individuelles, degré de conscience ». Alors c'est tout un débat où il y a les risques révèlent que nous, où il parle d'homosexualité, de pédérastie, enfin ça se termine une sorte de ce qu'on pourrait appeler un machin de groupe, quoi. Ça se termine assez mal. Et il est question à la fin de sexualité infantile. C'est dans cette mouvance, disons, secondaire qu'il y a des œuvres de personnes beaucoup moins connues, mais j'en parle parce que dans la bibliothèque, il y a beaucoup d'œuvres, il y a toutes les œuvres de certains Henri Lenormand. Alors ça, c'est quelqu'un qui a publié beaucoup sur la psychanalyse, qui a fait beaucoup d'œuvres de théâtre notamment, et de romans sur la psychanalyse, où il est toujours question. Alors le psychanalyste, il s'appelle Le Mangeur de rêves, et c'est pas très reluisant pour le psychanalyste. Mais à titre documentaire, ça vaut le coup d'aller voir dans la bibliothèque ce genre de travail. Enfin, c'est du Paul Bourget, quoi. Déjà, Paul Bourget, croyait s'intéresser à la psychanalyse. Dominique Grenier a pu me passer l'autobiographie de Clara Malraux qu'elle a écrite à la fin de sa vie, qui pour cela donc a fait sa dernière apparition à Apostrophe. Et elle avait une volonté de fréquenter des écrivains, des intellectuels. Et donc, c'est comme ça qu'elle est arrivée parmi ces personnes. Et notamment, il y a une revue littéraire qui s'appelle Le Disque Vert, et dont il y a eu un numéro entièrement sur la psychanalyse, et ça date de 1924. Alors, pour ce qui nous intéresse du livre proprement adapté par Clara Malraux, ça apparaît dans une collection chez Gallimard qui s'appelle Les Documents Bleus. Il y a quatre premiers numéros qui sont les premières traductions de Freud. Il y a donc les trois essais sur la théorie de la sexualité qui sont traduits par Blanche Reverchon. Blanche Reverchon, c'était cette psychiatre qui est devenue analyste ensuite quand elle a rencontré Pierre-Jean Jouve, et qui donc a été la femme de Pierre-Jean Jouve. Et il y a Un souvenir d'enfance de Léonard Vinci qui est traduit par Marie Bonaparte. Et Ma vie, la psychanalyse, qui est traduite par Marie Bonaparte, je ne sais pas si on peut lui faire confiance dans sa traduction. Et enfin, il y a le numéro 46, donc, qui est intitulé Le journal psychanalytique d'une petite fille. Bon, alors on a pensé vous faire une lecture donc du journal proprement dit. C'est pas très facile de faire une lecture suivant des thèmes, parce que c'est un journal et que c'est complètement haché par les jours. Le thème qui m'a paru le plus important peut-être, enfin moi qui m'a intéressé le plus, c'est en sorte deux thèmes qui se mélangent continuellement, ce qu'il en est de la constitution du journal, de l'origine du journal, de pourquoi elle fait ce journal, et ce qu'il en est en somme de la, si je peux dire, de la fermeture de son appareil psychique grâce au journal. Et le thème qui s'y mêle continuellement, c'est le rapport entre Rita, donc l'auteur du journal, et ses parents, son frère et sa sœur aînée. Alors, la famille Leiner est donc composée du père, de la mère et des trois enfants. Rita, la plus jeune, qui donc écrit le journal, sa sœur Dora et son frère aîné, Oswald. Oswald, d'ailleurs, n'apparaîtra que très peu. Je me demande même s'il a une existence réelle, s'il a eu une existence réelle. Et j'ai un peu comme supposition qu'il correspond un peu beaucoup au caractère du neveu. Enfin, lui, il n'apparaît qu'au moment des vacances et il a beaucoup de traits de caractère qui ressemblent à celui du neveu. Enfin, Rita, sa grande amie, qu'elle appelle Ella, et dont le nom de famille est Bruckner. Alors là, ce qu'il en est du début du journal.
12 juillet. Ella et moi écrivons à présent un journal. Nous avons décidé de rédiger chaque jour un journal si nous sommes admises au lycée. Dora aussi écrit un journal, mais elle se met dans une colère terrible quand je le vois. J'appelle Hélène Ella, et elle me nomme Rita. Hélène est gretteuse et si terriblement vulgaire. Dora se nomme depuis peu Théa, mais je dis tout de même toujours Dora. Elle prétend qu'un journal n'est pas encore de mise pour d'aussi petits enfants. C'est ainsi qu'elle nous désigne, moi et Ella, et que de sottises se trouveront là-dedans. Pas plus que dans les siens et ceux de Lydie. 19 juillet. Il est difficile en vacances d'écrire tous les jours. Tout est si nouveau et l'on n'a pas de calme pour écrire. Nous demeurons dans une magnifique villa dans la forêt, mais Dora s'est tout de suite réservée pour écrire la place qui se trouve devant la maison. Et derrière la maison, il y a tant de toutes petites mouches, tout y est noir de mouches. J'ai un horrible dégoût des mouches et de ce genre de bêtes. Je ne supporterai en aucun cas d'être supplantée ainsi à cause de la place de devant. Ça n'existe pas, c'est aussi ce que papa a dit. Allons les enfants, ne vous disputez pas. Enfants à elle aussi. C'est bien fait, car elle est si prétentieuse, parce qu'en octobre, elle aura 14 ans. Les places appartiennent à tous et à chacun, a dit papa. C'est vrai que papa est toujours si juste. Il ne donne jamais raison à Dora, tandis que maman favorise souvent Dora. Aujourd'hui, j'écris à Ella. Elle ne m'a d'ailleurs pas encore écrit. 21 juillet. Ella m'a écrit 4 pages, et si gentiment. Si je ne l'avais pas, elle, peut-être viendra-t-elle chez moi en août ou irai-je chez elle, ce serait presque encore mieux. J'aime aller en visite pour longtemps. Papa a dit « Enfin, nous verrons bien ». Alors il permet certainement. Quand les parents disent « Nous verrons », cela veut toujours dire oui. Mais ils ne veulent pas le dire franchement, afin que si cela ne va pas, les enfants ne puissent pas leur reprocher de ne pas tenir leur parole. Papa d'ailleurs permettrait tout, mais maman... Enfin, si j'étudie souvent mon piano, elle me le permettra peut-être tout de même. Il faut que j'aille me promener. 29 juillet. Il m'a été tout à fait impossible d'écrire hier. Les Wartes sont arrivés et j'ai passé toute la journée chez Erna et Liesel, bien qu'il ait plu toute la journée. Nous nous sommes admirablement amusés. Elles ont emporté une quantité de jeux de société et nous avons joué en prenant comme lot des sucreries. J'en ai gagné 47, ensuite j'en ai donné 5 à Dora. Robert a déjà une tête de plus que nous, Liesel et moi. Je crois qu'il a 15 ans. Il m'appelle Mademoiselle Grete et a porté le manteau que maman m'avait envoyé à cause de la pluie. Et après le dîner, il m'a reconduite jusqu'à la maison. Demain, c'est mon anniversaire, alors ils sont tous invités, et maman fait de la mousse aux fraises et des gaufrettes, c'est chic.
Bon, alors, juste entre en scène Robert, et Robert, donc, c'est tout premier investissement affectif de Rita. On a choisi le passage des secrets concernant les garçons, et les cercles de garçons. Et il est aussi question dans ce passage des mensonges que font les enfants et qui sont appelés par les parents de l'hypocrisie et de la roublardise.
5 août. Nous allons tous les jours au tennis. Hier, tandis que nous y allions, Robert et moi, Élise, Erna et René, Dora nous a crié « Les fiancés en herbe ». Elle a appris ça par Oswald et je crois que ça veut dire « dans 100 ans ». Peut-être qu'elle attendra aussi longtemps que ça, mais nous pas. Maman l'a vertement grondée à cause de ça. Elle lui a dit qu'elle ne devait pas dire de pareilles sottises. C'était bien fait. En herbe. Nous ne l'appelons plus maintenant qu'en herbe. Comme ça, personne ne sait de qui nous parlons. 12 août. Je ne peux pas écrire tous les jours, car je suis la plupart du temps avec les V. Oswald ne peut pas souffrir Robert. Il dit que c'est un gamin et que si on lui pressait le nez, il en sortirait du lait. Quelle insolence! Depuis 3 jours, je ne lui dis plus rien, c'est-à-dire seulement le strict nécessaire. Erna et Liesel, à qui j'ai raconté ça, disent... Tous les frères sont impertinents comme ça avec leurs sœurs. Pourquoi ? Je me le demande. D'ailleurs, Robert est en général très gentil avec ses sœurs. Elles disent oui devant toi parce qu'il se gêne devant toi. Hier, nous nous sommes tordus de rire parce qu'il nous a raconté comment les garçons se moquent de leurs professeurs. L'histoire du mégot était à mourir de rire. Et ils ont un cercle qui s'appelle TOM. Ces lettres sont les initiales de « Tais-toi ou meurs » en latin. Personne n'a le droit de trahir quoi que ce soit, et lorsqu'un nouveau est reçu, il est obligé de se déshabiller complètement et de se coucher comme ça, et chacun crache sur sa poitrine et frotte jusqu'à ce que ce soit effacé et dit « que celui-ci soit des nôtres, mais en latin ». Puis il doit aller trouver le plus vieux et le plus grand et recevoir de lui des coups de verge sur le dé, puis il faut qu'il jure de ne jamais trahir personne. Puis chacun fume un cigare et touche son bras ou une autre partie de son corps avec le bout brûlant du cigare et dit « que chaque trahison te brûle ainsi ». Puis le plus âgé, qui porte un nom spécial, mais dont je ne me souviens pas, lui tatoue le mot « tome » qui veut précisément dire « tais-toi ou meurs » et un cœur contenant le nom d'une jeune fille. Robert dit que s'il m'avait connu plus tôt, il aurait choisi Gretchen. Je lui ai demandé quel est le nom qu'on lui a tatoué, alors il a dit qu'il n'avait pas le droit de trahir cela. Mais je vais dire à Oswald qu'il regarde pendant le bain et qu'il me le dit ensuite. Dans ce cercle, il cogne d'une façon affreuse sur les professeurs et celui qui invente les meilleures niches est élu Rohon. Être Rohon est une distinction et les autres sont absolument obligés de lui obéir. Mais dis-moi tout, je ne trahis rien. Car si je le voulais, je t'en prie, tu sais bien. Et alors elle m'a raconté toute l'histoire de Mad. Mad a en secret un fiancé à qui elle a donné la plus grande preuve d'amour. Ça veut dire qu'elle... elle l'aime follement et ils se marieraient tout de suite, mais il est aussi lieutenant et ils n'ont pas tous les deux assez d'argent pour la caution. Elle dit que lorsqu'on aime beaucoup un homme, on supporte très volontiers tout pour lui. Elle a déjà été plusieurs fois chez lui et fait toujours terriblement attention, car son père la tuerait s'il le savait. Dora a déjà vu le lieutenant et dit qu'il est très joli, mais que V est indiscutablement plus beau. Matt dit qu'en général, on ne peut pas avoir confiance dans les hommes, mais que le lieutenant est tout différent. Celui-là est franc et loyal comme l'or. Et V, sûrement aussi. 25 mai. Ah mon Dieu, je pourrais me donner une gifle, non, 100 gifles. Ce qui m'est arrivé, à présent nous n'avons plus la permission d'aller au champ d'aviation. Car papa ne nous laissait y aller que parce que Victor est à Linz, et que papa croyait qu'il y était encore pour une quinzaine de jours. Et aujourd'hui à déjeuner, je me suis coupée et j'ai dit, il n'y a malheureusement pas de place pour 5 personnes dans l'auto. Mais si mademoiselle Élise ne venait pas avec nous, monsieur le lieutenant pourrait venir avec nous. Dora m'a donné un coup sous la table, et moi je voulais réparer ma gaffe, mais papa a été extrêmement fâché et il a dit « Comment, le fumiste y va aussi ?»« Non mes chers, il n'y a rien à faire. Je vais immédiatement vous excuser auprès de madame la conseillère, je ne veux pas de cela. Ne vous avais-je déjà pas dit que je vous défendais de fréquenter cet homme ?» Il a dit cela à Dora. Dora n'a pas répondu, mais après cela elle n'a mangé ni entremets ni fruits, et quand nous avons été dans notre chambre, elle s'est mise à m'attraper. « Tu l'as fait exprès, tu es quelqu'un d'ignoble, ou plutôt non, tu n'es qu'une petite fille en qui je n'aurais pas dû avoir confiance, et ainsi de suite. Ça c'est vraiment trop fort, je l'ai fait exprès, comme si j'étais jalouse d'elle. Puis pour moi aussi c'est une punition, car moi aussi je l'aime vraiment bien, parce qu'il ne fait pas de différence entre nous deux, et qu'il est avec moi exactement comme il est avec Dora. Bien entendu, nous ne nous parlons plus, et ce qui m'a le plus vexée, c'est qu'elle a dit qu'elle regrettait chaque parole qu'elle m'avait dite à ce sujet. C'était des perles jetées au pourceau. C'est vraiment de la plus grande insolence. » Je suis donc un pour... Mais qui donc en a raconté davantage? Est-ce que ce serait moi? Il y a en tout cas une chose dont je suis sûre, c'est que je ne causerai plus jamais avec elle de ces choses-là. J'ai Dieu merci, elle l'a. D'ailleurs, celle-là ne dirait et ne penserait jamais quelque chose comme ça de moi. 3 août. Je sais maintenant pourquoi Dora n'est plus avec moi comme auparavant, c'est-à-dire pourquoi elle est de nouveau précisément comme autrefois, avant cet hiver. Elle a trouvé en maman une véritable amie. Pendant les 3 semaines passées à V. J'ai amené aujourd'hui la conversation sur Victor, et tout d'abord elle a seulement dit « Je n'ai plus de correspondance avec lui ». Et comme je lui demandais « Vous êtes-vous disputé et qui en est responsable ?», elle m'a dit « Oh non, je l'ai seulement décommandé ». Pourquoi décommandé puisqu'il ne va pas en Amérique? Alors elle m'a dit « Ma chère Rita, pour mettre les choses au clair, je l'ai abandonné pour satisfaire le juste désir de ma mère ». D'ailleurs elle dit « mère » à présent, la plupart du temps au lieu de « maman », il faut que je le dise. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup maman, mais je n'arrive pas à me l'imaginer comme amie. Comment donc peut-on avoir une véritable amitié dans sa mère? Dora ne doit vraiment pas avoir la moindre notion de ce que veut signifier une véritable amitié. Il est impossible de parler de certaines choses à sa mère. Je ne pourrais même pas lui demander « sais-tu ce que signifie « quelque chose est arrivé » ou « s'est passé » ?» Et d'ailleurs, je me demande si elle le sait vraiment, car lorsqu'elle avait 13 ou 15 ou 16 ans, on employait sans doute des expressions toutes différentes, et les expressions modernes ne signifiaient alors peut-être rien du tout. Puis, comment cela peut-il s'accorder avec une amitié que maman dise cependant à Dora « Tu ne dois pas sortir, l'orage peut éclater d'un instant à l'autre » ou
Dora, tu dois emporter ce châle. Une amitié entre une fille et une mère n'existe pas, aussi peu qu'entre un père et son fils. Avant tout, plus rien alors ne devrait être ordonné ou défendu. Puis, et ce qui est bien plus important, il est tout à fait impossible de parler de tout, ce dont précisément on voudrait parler. Le soir, j'ai seulement ajouté « Maman t'a naturellement défendu de parler avec moi de certaines choses, et c'est cela que tu appelles une amitié. » Alors elle a dit avec beaucoup de douceur « Non, Rita, mère ne m'a rien défendu, mais je reconnais que c'était fort léger de ma part de parler de ces choses avec toi. On apprend assez tôt à connaître le sérieux de l'existence. » J'ai éclaté de rire et j'ai dit « C'est cela que tu appelles le sérieux de l'existence ? Ne te souviens-tu plus que nous nous amusions follement ? Il me semble que ta mémoire a souffert dans les bains de boue. » Elle ne m'a pas répondu. Si seulement Ada venait, car à présent j'ai autant besoin d'elle qu'elle a besoin de moi.
Oui, alors là, manifestement, Rita souffre de l'alliance entre Dora et sa mère. Et ce qui est assez surprenant, je me demande si là aussi il n'y a pas l'intervention adulte, c'est une utilisation, je crois que j'ai quelques doutes du fait que les enfants ne doivent pas être les amis des parents. Ce dont je suis parfaitement d'accord avec cela, mais j'ai quelques doutes de la manière dont c'est utilisé dans ce texte. Alors, le journal est divisé en 4 années, il y a 4 années, et Clara Malraux, elle, n'en fait que 3. Et alors, il se trouve que la deuxième année, elle y met 2 années, ce qui est incompréhensible. Et alors, dans la troisième année, et qui est pour elle toujours la deuxième année, ce qui arrive, c'est que la mère est hospitalisée, elle est manifestement très malade. Le problème de Rita va être d'accéder à sa mère seule, alors qu'ils y vont tous en famille et que Dora, elle, peut aller voir sa mère seule.
28 novembre. Dieu merci, tout s'est bien passé. Dans 15 jours, maman sera de nouveau chez nous. Je suis si heureuse. Je vois seulement à présent quelle peur affreuse j'ai eue. Nous allons à présent tous les jours chez maman au sanatorium. Ce que j'aimerais le mieux, ce serait d'y aller seule, mais nous y allons malheureusement toujours ensemble, c'est-à-dire soit avec papa, soit avec tante Dora, car Dora va sûrement toute seule voir maman. Elle s'est trahie aujourd'hui à cause des fleurs. Elle fait comme si c'était seulement sa maman à elle. Jeudi, quand nous avons été voir maman pour la première fois, nous avons tous seulement chuchoté. Et maman a pleuré, bien que cette opération doive la guérir tout à fait. Hier, tante Alma est malheureusement venue avec nous. Et alors papa a dit que tant de gens à la fois, cela agitait trop maman et que nous devions nous en aller. En réalité, il voulait dire naturellement que tante Alma et Marina devaient s'en aller. Mais tante n'a pas compris ou n'a pas voulu comprendre. D'ailleurs, pourquoi tante est-elle venue ? Car nous ne nous voyons presque plus depuis l'histoire, à cause de Marina et d'Ervine, sauf aux soirées de famille. Oswald dit, au lieu de réunion familiale, séparation familiale, parce que le plus souvent, il y a quelqu'un qui est froissé. 30 novembre. Aujourd'hui, j'ai tout de même été toute seule chez maman. J'ai dit en classe que j'avais horriblement mal à la tête, que je ne pouvais pas assister aux cours de français, et c'était vraiment vrai. Et j'ai dit à maman que Madame Dunker était malade et que nous n'avions pas classe. En réalité, on ne devrait pas faire de mensonge à quelqu'un qui est malade, mais ça, c'était un pieux mensonge. Comme dit toujours la maman de Ella, de ce genre de choses, et personne ne le saura. Car Madame le professeur n'a rien à faire en 4e, si bien que Dora ne pourra pas l'apprendre. Maman était extrêmement contente de ce que moi aussi, je venais une fois toute seule. Et ceci est une preuve effective de ce que Dora y va toute seule. Maman a été si gentille, et la sœur Clara a dit qu'elle était un ange de bonté et de patience. Alors je me suis mise à pleurer d'une façon effrayante, et maman a dû me calmer. À la maison, je ne voulais tout d'abord rien dire, mais comme après le repas, nous nous habillions pour nous rendre chez maman, j'ai dit comme ça, en passant, « Je vais voir maman aujourd'hui pour la seconde fois. » Et comme Dora disait « Comment cela ?» J'ai dit très brièvement « Il y a eu 1 heure de cours en moins et j'ai profité de l'occasion pour aller moi aussi rendre une fois toute seule visite à maman. » Alors elle a dit encore, « Est-ce que le portier t'a laissé entrer comme ça, toute seule ? Cela m'étonne beaucoup que de toutes jeunes fillettes comme toi, qui sont encore presque des enfants, puissent y entrer toute seule. » Tante Dora est heureusement entrée à ce moment-là et elle a dit, « Personne ne prendrait-elle pour une si petite enfant et puis tout le monde nous connaît déjà maintenant au sanatorium. » Nous n'avons pas échangé un mot pendant le chemin. 6 décembre. Cela m'a été très désagréable aujourd'hui. Ce soir, en quittant la salle à manger, papa m'a dit « Gretel, tu as oublié quelque chose. » Et comme je revenais, il m'a pris par la main et m'a dit « Pourquoi ne dis-tu pas que tu aimes tant aller seule chez maman ? Tu n'as pas besoin d'en faire un secret. » Et alors je me suis mise à pleurer et j'ai dit « Oui, je n'ai pas besoin d'en faire un secret pour toi, mais Dora n'a pas besoin de savoir tout. Est-ce qu'elle te l'a raconté au sujet de l'autre jour ? Mais papa ne sait pas que j'ai eu soi-disant mal à la tête, mais seulement que j'avais tant envie d'aller seule chez maman. Et il a été si gentil, et il m'a embrassée, et il m'a caressée, et il m'a dit « Tu es un bon petit bonhomme, ma petite sorcière. Reste toujours comme cela. » Mais je me suis bien vite détachée de ses bras parce que j'étais très gênée d'avoir tout de même en réalité fait un mensonge. Sans Dora, je ne mentirais jamais.
On va laisser tomber le passage où la mère est donc décédée et Rita parvient à aller seule sur la tombe de sa mère. Hein, donc ça, on ne va pas le lire. Et on va lire le dernier passage qui est donc dans la quatrième année où elle manifeste son attachement qui est vraiment très très fort pour son professeur d'allemand, Madame Docteur M.
3 janvier. Au soir, Dieu merci ou malheureusement, suivant le point de vue, cette sotte dessinatrice a oublié de faire le signet et je ne l'aurai que demain matin. Je peux donc écrire maintenant. C'était merveilleux. Nous avons dû nous promener au moins pendant une demi-heure devant sa maison jusqu'il soit enfin 4h05. Mon Dieu, elle était délicieuse. Elle voulait nous dire vous, mais nous ne l'avons absolument pas voulu. Alors elle s'est remise à nous tutoyer. Je ne sais plus du tout de quoi nous avons parlé, seulement que je me suis tout à coup mise horriblement à pleurer. Et alors elle m'a attirée sur sa poix... Non, je ne veux pas écrire quelque chose comme ça d'elle. Elle m'a attirée vers elle et j'ai senti battre son cœur. Je suis presque devenue folle. Ella prétend que j'ai entouré son cou de mes deux bras, mais c'est une imagination de Ella. Je n'aurais jamais osé faire ça. Elle a des mains si ravissantes et son alliance brille à son annulaire. Nous avons naturellement aussi parlé de l'école et tout à coup elle nous a demandé qu'est-ce que c'était donc que cette histoire de devoir dans lesquels la moitié de la classe n'a pas mis de ponctuation. Mon Dieu, avons-nous dit toutes les deux. C'est un mensonge infâme. Ce n'est pas la moitié de la classe qui a fait ça, mais seulement 6 élèves, madame le professeur, qui vous ont toujours particulièrement adoré. Puis nous lui avons raconté comment les choses se sont passées. Alors elle a ri un peu et nous a dit « Mes enfants, vous ne m'avez pas rendu un bien grand service avec ça. Toute l'histoire était vraiment d'une grande insolence. » Alors j'ai dit « Et les réflexions de monsieur le professeur Fritsch étaient encore 10 fois plus insolentes, car elles avaient trait à un professeur et par-dessus le marché, à vous. » Alors elle a dit « Mes chers enfants, il en est ainsi sur cette terre. On dit toujours du mal des absents, que ce soit justifié ou non. Il en est ainsi malheureusement dans toutes les carrières. » Puis elle a dit encore que Madame la directrice n'était pas ainsi, car sinon il y aurait eu un scandale monstre, car l'affaire était connue de tous les lycées de Vienne. Alors Madame le professeur a dit « Oui, Madame la directrice a vraiment un noble caractère. » Et maintenant voici encore quelque chose de merveilleux, ou plutôt 2 choses merveilleuses. Elle avait préparé pour nous des bonbons admirables, comme je n'en avais encore jamais mangé. Ça, Ella l'a affirmé aussi. Et nous deux, nous nous y connaissons vraiment bien en sucrerie. Et la deuxième chose encore plus admirable a été celle-ci. Nous étions déjà chez elle depuis un moment, lorsqu'on a frappé, et que son mari, monsieur le professeur, est entré et il lui a dit « Bonjour, mon amour. » Et à nous, « Bonjour, mesdemoiselles. » Puis elle nous a présenté 2 de mes plus chers élèves et mes plus fidèles admiratrices. Alors monsieur le professeur a beaucoup ri et a dit « On ne peut pas en dire autant de tous ses élèves. » Alors j'ai dit très vite aussi, lorsqu'il s'agit de madame le professeur, où je lui ai encore, toute la classe irait au feu pour elle. Puis il est reparti, et elle a dit « Excusez-moi un instant. » Et nous avons nettement entendu qu'il l'embrassait dans la pièce voisine, car elle disait encore en rentrant « au revoir Charles. » Il s'appelle malheureusement seulement Charles. C'est un nom si prosaïque, et il l'appelle Lise, et lorsqu'ils sont seuls, sans doute Lichen, car il est un Allemand du Nord. Il faut que je me couche, il est presque 11h30. Demain, suite. Dors bien, mon doux, mon merveilleux, mon délicieux, mon précieux, mon unique trésor. Mon Dieu, que je suis heureuse. 6 janvier. Dieu merci, aujourd'hui nous avons congé et nous ne pouvons pas aller faire de la luge parce que Dora a un refroidissement. J'ai reçu le signet le 4 et j'ai travaillé toute la journée et jusqu'à minuit le soir. Et hier, je me suis déjà levée à 5h30 et j'ai de nouveau travaillé toute la matinée. Et nous avons déposé les souvenirs chez elle l'après-midi à 2h. Nous aurions bien voulu les lui remettre nous-mêmes, mais nous ne l'avons tout de même pas fait et les avons simplement remis à la femme de chambre. Elle a demandé « Faut-il que j'annonce ces demoiselles ?» Mais elle a dit tout de suite « Non, merci, nous ne voulons pas déranger. » Et en bas, elle m'a dit, en réponse à mes reproches, « Non, c'est mieux ainsi, tu es déjà tout agité comme ça. Tu sais ce qu'elle a dit ? Mais ma chère enfant, tu vas te rendre malade. Il ne faut pas me faire ce chagrin-là. » Mon Dieu, je pleure tant que je ne peux pas écrire, mais il faut tout de même que j'écrive, car j'ai tant de choses merveilleuses à dire que je ne dois jamais, jamais oublier, et même s'il faut que je les écrive pendant 8 jours. Qu'est-ce que cela peut bien faire? Je ne vis plus que de ce souvenir et je ne demande rien d'autre que la revoir encore une fois dans ma vie. Nous lui avions naturellement apporté des fleurs vendredi. Moi du muguet avec des violettes et des tubéreuses, et elle a des roses à longues tiges. Elle nous a beaucoup remerciés et est tout de suite allée chercher deux vases que sa maman a apportés. Elle est aussi petite que Madame R et a déjà des cheveux gris, délicieux, mais elle ne ressemble pas à Madame le professeur M. Au départ, elle nous a encore donné des bonbons, mais parce que nous pleurions déjà presque toutes les deux, nous n'avons pas voulu en prendre. Alors elle a fait un paquet de presque tous les bonbons et nous a dit « pour vous consoler dans votre chagrin ». De la part de quelqu'un d'autre, cela semblerait ironique, mais de sa part, c'est simplement délicieux. Il y avait 17 gros bonbons et elle a absolument voulu m'en donner 9 et elle n'en a pris que 8. Je n'en mange chaque jour qu'un seul afin que je puisse en avoir pour 9 jours, de ma joie et de ma souffrance. Ella ne ressent pas cet amour tout autant que moi, et hier elle m'a dit, en plaisantant, il est vrai, « Il me semble que le monde entier n'existe plus à tes yeux. Il faut que je te change d'idée, sinon tu finiras par devenir folle. » Puis elle m'a demandé comment j'avais pu être assez sotte pour employer avec elle les mots « voyage de noces », bien qu'elle ait tout sauté. C'était une idiotie, et madame la professeure en est aussi devenue toute rouge. Je ne l'ai pas du tout remarqué, ce n'est que lorsque son mari est entré qu'elle est devenue écarlate. Puis nous avons encore causé de ces choses, c'est-à-dire Ella et moi. J'aurais bien voulu lui demander si elle est devenue sans religion, car son mari serait tout de même juif, quoiqu'il n'ait pas l'air juif, car finalement il y a beaucoup d'autres messieurs qui ont une barbe noire. Mais je n'ai pas osé lui demander, et Ella pense que cela valait mieux, car ce sont des choses auxquelles on ne touche pas. Est-ce qu'elle aura un enfant? Mon Dieu, ce serait horrible. Peut-être d'ailleurs a-t-elle fait un contrat de mariage de ce genre, ce serait ce qu'il y a de mieux. Mais Ella pense que le prof ne l'aurait pas accepté. Mais enfin, s'il l'aime à la folie. 17 janvier. Tout le lycée sait que nous avons été invités chez elle, la divine. Je viens de relire tout ça et vois qu'il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas écrites. Par exemple, l'histoire avec son père. En partant, nous avons beaucoup pleuré en bas, sous le porche de la maison. Parce qu'en ouvrant la porte, j'ai dit « pour la dernière fois ». Voilà qu'un vieux monsieur est entré sous le porche. Et lorsqu'il nous a vus en train de pleurer toutes les deux, bien que nous fussions dans l'obscurité, il est venu vers nous et nous a demandé ce qui se passait. Alors Ella a dit, « Nous avons perdu notre meilleur ami. » Alors le vieux monsieur nous a regardés très longuement et nous a dit, « Ne seriez-vous pas les deux ardentes admiratrices de Madame Marbourde? C'est ma fille. » Puis il a dit, « Mais il est impossible que vous alliez ainsi, ruisselante de larmes, dans la rue. Remontez avec moi. Ma fille trouvera bien moyen de vous consoler. » Et nous sommes vraiment remontés avec lui. Et elle a été admirable. Son papa a ouvert la porte et a crié « Liesel, tes adoratrices ne peuvent pas se séparer de toi et sont en train de se transformer en fontaine. » Alors elle est venue et elle avait un peignoir rose, adorable. Elle nous a fait entrer dans la chambre et nous a dit « Mes enfants, ne me regardez pas, ce peignoir est un vieux sac, bon à jeter. » J'aurais voulu lui dire « Donnez-le-moi », mais je ne pouvais tout de même pas le dire. Et lorsque nous sommes partis, peut-être pour toujours, toujours. Elle nous a embrassés chacune deux fois et nous a dit « Mes enfants, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. » 18 janvier. Ella m'a invitée pour cet après-midi car Laios et Yenneux viennent chez elle. Mais je n'irai pas, car Yenneux m'est tout à fait indifférent. Ce n'était pas un amour véritable. D'ailleurs, tout le monde m'est indifférent, sauf elle, l'unique. C'est précisément ce que Ella ne peut pas comprendre et c'est ce qu'elle appelle « être exaltée ». Papa aussi voulait que j'aille chez la grand-mère de Ella, afin de penser à autre chose. Mon Dieu, je n'en parle déjà plus du tout parce que personne ne me comprend. Je n'aurais jamais cru que papa était comme les autres. D'ailleurs, c'est vrai que je maigris. Je suis bien contente qu'aujourd'hui non plus nous n'allions pas faire de la luge, parce que Dora a un refroidissement, mais cette fois-ci un vrai refroidissement. Alors après la messe, j'irai rue Schwind et marcherai devant sa maison. Peut-être rencontrerai-je son papa ou sa maman. Je lui ai écrit avant-hier. 24 janvier, je suis heureuse. Elle m'a répondu par retour du courrier. C'est la deuxième lettre que j'ai d'elle. Papa m'a dit aujourd'hui à déjeuner. Eh bien, Gretel, tu as l'air bien contente aujourd'hui. Il y a bien longtemps que je ne t'ai vue avoir des yeux si rayonnants. Et j'ai seulement dit très brièvement, je t'en dirai la raison après les déjeuners. Les autres n'ont pas besoin de savoir. Puis quand j'ai dit après à papa que Madame T m'avait écrit, papa a dit, alors c'est ça qui t'a fait si grand plaisir? Mais j'ai aussi une nouvelle à t'annoncer qui te fera plaisir. Le 1er et le 2 février sont un dimanche et un lundi, et tu auras donc 2 jours de congé. Si toi et Ella, vous pouvez être dispensés de classe samedi, Nous pourrons aller faire une excursion à Mariazell. Qu'en penses-tu? Ah, c'est merveilleux. Pourvu que Ella ait le droit de nous accompagner, car sa grand-mère s'imagine que c'est pendant l'excursion sur la Ninger, où elle a perdu la semelle de sa chaussure, qu'elle a attrapé l'angine de Noël, comme si nous y pouvions quelque chose. J'espère qu'elle l'a déjà oublié, car elle a déjà 63 ans, et à cet âge, on oublie pas mal de choses. Soir, Ella a le droit de nous accompagner, ce sera merveilleux. Peut-être essayerons-nous aussi de faire un peu de ski. D'ailleurs, Ella n'est qu'une horrible grimacière. Elle a dit « Oui, je vous accompagnerai si tu me jures de ne pas parler sans cesse de Madame Taylor. Moi aussi, je l'aime beaucoup, mais toi, tu en es tout bonnement folle. C'est inouï, et je ne prononcerai plus son nom devant personne. Je me réjouis beaucoup de l'excursion de Mariazell. Nous n'avons pas encore fait d'aussi grande excursion en hiver. Hip hip, hourra. Ça sera beau. Mon Dieu, si seulement nous étions déjà le 31 janvier, je me réjouis follement. »
Voilà. Alors, en dernier lieu, pour conclure, on a pensé vous donner quelques aperçus des oublis, entre guillemets, de Clara Malraux. Le texte original, pour montrer là, les coupures exercées, tout ça, c'est l'entrelardement de ce qui n'a pas été traduit par Clara Malraux. Alors, ça représente quelque chose d'assez énorme. Grâce à Dominique Souvreni, nous en avons eu une traduction mot à mot très intéressante. Il n'est pas question, bien entendu, de vous lire ce qu'il en est de toutes les coupures. La seule chose auquel j'avais pensé, c'était d'abord de vous lire l'épilogue. Le texte donc allemand se termine par quelques lignes sur ce qu'il en est de l'épilogue et que Clara Malraux n'a pas voulu du tout traduire.
Le mot de la fin. Le joyeux espoir de la jeune Rita de filer sur sa luge dans l'étincelante splendeur de l'hiver ne fut pas exaucé. La main cruelle du destin intervint dans la vie des frères et sœurs. Le 29 janvier, l'ambulance ramena leur père victime d'une attaque d'apoplexie à son domicile auprès des filles qui ne se doutaient de rien. Il y mourut quelques heures après, sans avoir repris connaissance. Arrachée à l'atmosphère chaleureuse d'une famille qui prenait soin d'elle avec amour, séparée de son ami, la petite âme désolée de la jeune orpheline lutta chez des parents de province pour trouver la paix.
Donc l'épilogue est assez surprenant. Le père meurt. Il est essentiellement question des deux sœurs. Le frère n'apparaît pratiquement pas. Ce qui me fait douter donc encore plus de son existence. Tout le reste, il y a des tas de petits oublis. Bon, les dates, c'est pas grave. Les noms, c'est pas grave non plus. Même quand elle appelle la fameuse ville de Wiener-Neustadt, qui est là où il y a l'Académie militaire de Vienne. Villeneuve, c'est une traduction qui est un peu gênante, de traduire les noms géographiques par des traductions pareilles qui ne veulent plus rien dire. Bon, il faut rappeler que donc Clara Malraux, elle le dit bien dans son autobiographie, était entièrement bilingue. Toute petite, même la langue qui avait autorité dans la maison, c'était la langue allemande. Mais sans doute une langue allemande quelque peu mélangée au français. Et quand elle parle de ses gouvernantes, de ses Fräulein, elle n'a pas un amour fou, Clara Malraux. Je ne crois pas qu'elle ait beaucoup d'amour pour la langue allemande. Elle a manifestement une désinvolture certaine vis-à-vis de la langue allemande. Alors, les lapsus personnels, bon, ça, c'est son droit, hein, elle peut en avoir. Quand elle traduit « c'est aujourd'hui le jour de mariage de papa et maman », que ça devient « c'est aujourd'hui le jour de mariage de papa », bon, ben, pourquoi pas. Clara Malraux dit bien, hein, c'est pas une traduction, c'est une adaptation. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème, on se posait pas beaucoup de problèmes sur les traductions littéraires et encore moins donc sur les textes psychanalytiques, ce qui est le sujet actuel, enfin actuellement. Alors, je me suis quand même posé la question de qu'est-ce qui avait fait autant de coupures dans ce texte. Et une hypothèse que j'ai, c'est l'antisémitisme féroce du journal, qui même, moi, me pose des questions de savoir comment Freud a-t-il pu préfacer ce livre. C'est dire ce qu'était l'antisémitisme de l'époque. J'avais choisi donc, pour finir, que Dominique nous lise ce qu'il en était de cet antisémitisme, pour vous donner donc une idée de ce qu'est le journal dans son intégralité.
3 juin. Oswald est là depuis vendredi soir, il est arrivé à 10h30. Mais il n'est pas venu hier à la fête, pourtant cela aurait plu à papa. Il dit que ça l'ennuyait de sortir avec ses 2 demi-portions. Il veut dire par là que nous ne sommes pas assez grandes pour lui, et c'est d'une effronterie sans nom. En particulier à l'égard d'Ella, elle a dit qu'elle l'ignorerait, tout simplement. Moi, sa sœur, je ne peux en faire autant, mais je me garderais bien d'aller lui chercher, lui apporter tout ce qu'il voudrait. On n'a pas non plus le droit d'offenser sa sœur. Dora vient de me dire, c'est abominable de devoir endurer quelque chose comme ça. Précisément la chose, quand on est marié. Rézi lui avait déjà raconté ce que faisaient ces deux-là, et expliqué que seuls les Juifs faisaient comme ça. Donc les autres gens ne se déshabillent sûrement pas entièrement, et c'est peut-être alors différent, à savoir la chose. Mais Mald y a aussi fait allusion comme ça, mais n'a pas parlé de la sensation d'étouffement. Mais ça, c'est précisément la conséquence de la cruauté des Juifs. Tous les soirs, j'ai peur d'y rêver toute la nuit, et Dora elle-même en a rêvé. Elle dit que dès qu'elle ferme les yeux, elle voit tout ça au détail près. 13 juin. C'était merveilleux, l'excursion. Ella et moi sommes restés toute la journée auprès de Frau Dr. M. Après l'après-midi, Franke a dit « Je vous demande un peu, qu'est-ce que vous avez à coller comme ça, la Frau Doktor ? On ne peut pas échanger la moindre parole sérieuse avec vous. » Alors, nous avons marché un long moment avec Franke dans la forêt, et elle nous a parlé d'un garçon qui est maintenant en 7e et qui est terriblement amoureux d'elle. « En fait, tous les garçons sont amoureux d'elle, » prétend-elle. « Donc, ça ne nous a que peu intéressés. » Mais ensuite, elle nous a raconté que Frau Doktor M. est secrètement fiancée avec un professeur de Leipzig ou d'une autre ville d'Allemagne. La cousine de Franke est la couturière de Frau Doktor M., et elle en est sûre. Les parents de Frau Doktor M. ne sont pas d'accord car il est juif, mais elle l'aime énormément, et ils se marieront quand même. Alors nous avons demandé à Franke, car elle est juive aussi, si tout ce que Mali nous avait raconté des juifs était vrai. Mali était à la maison quand Rézi était à l'hôpital. Et Franke nous répondit, « Bien sûr que c'est vrai, je peux vous le confirmer sur tous les points. Mais la cruauté, ce n'est pas si terrible. » Tous les hommes sont cruels, particulièrement dans ce cas-là. Elle a bien raison. Mais c'est tout de même effrayant de penser que c'est précisément la belle, la jolie Frau Doktor M. qui doit avoir un mari cruel. Ella me dit que si ça lui convenait à elle, je n'avais pas besoin de m'énerver. Mais peut-être ne sait-elle pas que... 16 décembre.
Dernier passage.
Avec la maladie de maman, je n'ai pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit sur l'école, bien qu'il y aurait eu beaucoup à écrire. Par exemple, que le professeur V est de nouveau terriblement amical. Pourtant, il ne donne plus de cours dans notre classe. Que la plupart des filles ne peuvent pas souffrir la noisette, parce qu'elle avantage tellement les juives. C'est absolument vrai, d'ailleurs. Par exemple, Franke, qui n'a jamais rien su, aura sans doute la mention digne d'éloge en maths et en physique. Et Weinberger peut faire tout ce qu'il lui chante. J'ai excellent pour tous les travaux en classe et à la maison. Moi, ça ne me fait rien. Mais Verbenowitz est furieuse. Car elle n'est plus le chouchou comme avec Frau Doktor St. Il vient de se passer quelque chose de très désagréable en cours de mathématiques. En calculant, on est arrivé par hasard à 1/2 et la noisette a demandé comment s'appelait 1/3 en fraction décimale. Et nous avons alors parlé surtout des fractions décimales périodiques. Et comme la noisette répétait toujours le mot période, quelques filles se sont mises à rire. Heureusement, quelques juives aussi. Et alors, elle est devenue furieuse et elle s'est mise à hurler affreusement. Au cours de Frau Doktor St., en première, quelques enfants avaient ri aussi, et elle avait fait comme si elle n'avait rien remarqué, et elle parlait aussi toujours de période, mais alors, on ne pense pas vraiment à la véritable signification. Frau Doktor F. a dit qu'elle se plaindrait de notre comportement inconvenant auprès de Frau Doktor M., mais toutes les filles n'ont pas ri, par exemple Ella et moi, avons seulement échangé un unique coup d'œil, et nous nous sommes pourtant tout de suite comprises. Moi non plus, je ne peux pas supporter les rires stupides.
Voilà, ben je crois qu'on va s'arrêter là. En vous remerciant de nous avoir écoutés.